Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La visite à Paris du président émirati Mohamed Ben Zayed, la France a signé un partenariat de coopération énergétique avec les Émirats Arabes Unis. Ce drame en Égypte, au moins 22 personnes ont été tuées, 33 blessées dans un accident de car. La France est en proie à des températures records. Nous sommes en train de prendre conscience de notre propre vulnérabilité face aux impacts du changement climatique, nous dit François Gémen, membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il sera l'un de nos invités. Les difficultés sont notamment pour les personnes qui n'ont pas de toit. Il faut se préoccuper des personnes à risque, affirme le médecin urgentiste Christophe Prudhomme, le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France que nous écouterons dans cette édition. En visite en Algérie, le Premier ministre italien a scellé hier l'augmentation de la fourniture de gaz algérien à l'Italie. Mario Draghi a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune avec qui il a coprésidé le 4e sommet algéro-italien. Le Maroc, qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, et les Lionnes de l'Atlas ont battu le Nigeria hier soir. Les Marocaines affronteront samedi prochain les Sud-Africaines. À l'occasion de la visite à Paris du président émirati Mohamed Ben Zayed, la France a signé un partenariat de coopération énergétique avec les Émirats Arabes Unis. L'Élysée indique que cet accord permettra, dans le contexte énergétique actuel incertain, de créer un cadre stable de long terme pour cette coopération, d'ouvrir la voie à de nouveaux contrats industriels et d'identifier de futurs projets d'investissement communs. Cela survient au moment où la guerre en Ukraine pousse les États européens à chercher de nouveaux fournisseurs d'énergie. Ce drame en Égypte, au moins 22 personnes ont été tuées et 33 blessées dans un accident de car. Le véhicule s'est encastré dans un camion garé en bord de route dans le centre du pays, dans le gouvernorat de Minya. Le conducteur du camion s'était arrêté en bord de route pour changer un pneu quand il a été percuté par l'arrière, par le car. Il y avait une cinquantaine de passagers à bord. Des records de température battus en France. Le pays est en proie à une intense vague de chaleur. Nous sommes en train de prendre conscience de notre propre vulnérabilité face aux impacts du changement climatique, nous dit François Gémen, membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, directeur de l'Observatoire Hugo à l'Université de Liège en Belgique et enseignant à Sciences Po et à la Sorbonne. Entretien avec François Gémen.
Je pense effectivement que nous assistons à la concrétisation empirique de ce qui avait été annoncé il y a déjà plusieurs années par les modèles climatiques, notamment ceux du GIEC, et je suis désolé de voir que malheureusement ces prévisions se vérifient d'année en année et quasiment maintenant chaque semaine. Et on sait que un des effets du changement climatique, ça va être de rendre plus fréquentes et plus intenses ces vagues de chaleur et donc également les feux de forêt dramatiques qui en découlent. Je pense que nous sommes en train de prendre conscience peu à peu de notre propre vulnérabilité face aux impacts du changement climatique. Et que pendant très longtemps, nous avons mis une forme de distance psychologique entre ces impacts et nous-mêmes, comme si c'était les autres qui allaient être touchés avant nous, les générations futures ou les pays lointains. Et nous nous rendons compte désormais que nous ne sommes pas immunisés contre les impacts du changement climatique.
Ce changement climatique qui est irréversible.
Il est irréversible. C'est un voyage sans retour. Donc il n'y aura pas de retour en arrière. Et c'est pour ça, je crois qu'il ne faut pas parler de crise climatique qui annoncerait une sorte de période éphémère avant un retour à la normale. Avec le changement climatique, il n'y aura pas de retour à la normale. Ou plutôt, ce que nous considérions jadis comme exceptionnel, va devenir la nouvelle normalité. Alors ça ne veut pas dire que tout soit fichu, qu'il n'y ait plus rien à faire, même si la température ne baissera pas au cours de nos existences, ce sont nos émissions de gaz à effet de serre actuelles qui vont déterminer quelle sera la hausse future de température, et bien entendu, plus la hausse moyenne de la température à l'échelle du globe sera importante, plus les événements extrêmes vont se multiplier et s'intensifier.
Alors justement, qu'est-ce qui peut déterminer le niveau de hausse des températures ?
Ce sera essentiellement les mesures que l'on va mettre en place pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, en 2022, le taux de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère s'établit à environ 420 parties par million. Chaque année, nous gagnons environ 2,6 parties par million. Et pour atteindre l'objectif principal de l'accord de Paris, c'est-à-dire une hausse de température de maximum 2 degrés à l'échelle de la planète d'ici 2100, le seuil de concentration auquel il faudrait stabiliser les gaz à effet de serre est de 450 parties par million. Ça veut dire que nous aurons atteint ce seuil d'ici une douzaine d'années. Et pour donner la mesure de l'élévation de cette concentration, il faut se rendre compte que pendant les 12 000 années qui nous ont précédés, cette concentration est restée remarquablement stable autour de 280 parties par million. Quand je suis né en 1980, elle était de 337 parties par million. Nous sommes désormais à 420 parties par million. Et le plafond à ne pas dépasser, c'est 450.
Est-ce que cela dépend de chacun d'entre nous ou alors cela dépend des politiques menées par les États et également par les effets engendrés par les multinationales?
Je crois que nous n'avons plus le loisir aujourd'hui d'opposer l'un à l'autre ou de nier, ça doit plutôt être les uns ou plutôt les autres qui doivent agir. Aujourd'hui, l'action est un impératif, je dirais, partagé. Il y a bien entendu les choses que l'on peut faire chacun de son côté en transformant notamment ses comportements de consommation. Mais il y a aussi et surtout les choses que nous pouvons faire ensemble comme citoyens, et ça évidemment c'est le rôle des pouvoirs publics, mais pour cela les gouvernements doivent aussi recevoir un mandat de leurs électeurs.
Cela renforce également les inégalités ou cela les met en lumière?
Ça renforce les inégalités. On sait que le changement climatique va exacerber les inégalités qui existent déjà dans la société, notamment parce que les personnes plus pauvres, également celles qui sont moins informées, moins connectées, plus âgées, plus fragiles, sont davantage touchées par les impacts du changement climatique, soit qu'elles habitent dans des zones plus exposées, soit qu'elles ne soient pas propriétaires de leur logement et que donc elles n'aient pas la possibilité de le faire rénover ou de mieux l'isoler. Et donc, le changement climatique va aggraver ces inégalités. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est qu'une société plus inégalitaire sera aussi une société qui sera plus vulnérable aux impacts du changement climatique. Et c'est pour ça qu'il faut évidemment articuler les politiques de lutte contre le changement climatique avec des politiques sociales en faveur de l'égalité. C'est dans l'intérêt de tout le monde, y compris des couches les plus favorisées dans la population, parce qu'un élément essentiel de la résilience face aux impacts du changement climatique, c'est la cohésion sociale et les liens de solidarité qui existent entre les individus.
Est-ce que cela est suffisamment compris et dit aujourd'hui, cette fracture sociale, c'est ce que vous nous dites, engendrée par ce réchauffement climatique?
Sans doute pas encore assez. Pendant très longtemps, je crois qu'on a un peu mené des politiques climatiques sans tenir compte de cela, comme si elles étaient en quelque sorte hors sol, dans les terres, comme si c'était des politiques strictement techniques, sans impact social et économique. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on se rend compte de la nécessité de cette articulation des politiques climatiques avec les composantes socio-économiques. Et pendant très longtemps, on a considéré le climat comme étant une matière un peu dans un silo, isolé du reste. Et ça a mené malheureusement à beaucoup, beaucoup de retard dans la mise en œuvre de ces politiques.
Il y a d'ores et déjà aujourd'hui des réfugiés climatiques?
Chaque année, ce sont plusieurs dizaines de millions de personnes qui sont déplacées par les événements climatiques extrêmes, qu'il s'agisse d'inondations, de sécheresses ou d'ouragans. En 2021, ce sont quasiment 24 millions de personnes qui ont été déplacées par ces événements climatiques extrêmes. Et à ce chiffre, il faut ajouter celles et ceux qui sont déplacés par des dégradations plus lentes du climat, comme la hausse du niveau des mers ou la dégradation des sols. Mais là, le problème est que nous n'avons pas véritablement de statistiques parce que les motifs de migration se mêlent les uns aux autres et qu'il est difficile d'isoler un parmi les autres. Pour beaucoup de gens, leurs ressources économiques dépendent intrinsèquement de l'état de l'environnement et donc les facteurs économiques et environnementaux de migration se confondent.
Et estimez-vous que les politiques mises en œuvre par les différents gouvernements sont à la hauteur de cet enjeu crucial pour la planète?
Non, pour le moment, elles ne sont pas encore à la hauteur. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais beaucoup, je pense, de gouvernements s'imaginent encore qu'ils pourront y arriver par quelques ajustements de leurs politiques actuelles et n'ont pas mesuré l'ampleur du changement qu'il fallait réaliser, le virage à 90 degrés qu'il fallait réaliser pour y arriver. Et je crois que vraiment, ces politiques de petits ajustements ne font que retarder la mise en œuvre des mesures plus radicales qu'il faut mettre en œuvre. À leur décharge, il faut dire que toutes nos démocraties et toutes nos économies se sont construites à partir de l'exploitation des énergies fossiles et que donc il faut changer radicalement de modèle de production et de consommation. Ce n'est pas évident, surtout quand on mesure les intérêts qui sont en jeu.
Et cela aura un impact, bien entendu, sur le plan migratoire.
Et ça aura aussi un impact, bien entendu, sur le plan migratoire. On sait que le changement climatique est aujourd'hui un des premiers facteurs de migration et de déplacement dans le monde, et c'est un des facteurs qui va évidemment accentuer les inégalités qui sont par essence le moteur des migrations.
François Gémen, membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, directeur de l'Observatoire Hugo à l'Université de Liège en Belgique, enseignant à Sciences Po et à la Sorbonne. Pour les services hospitaliers, cette vague de chaleur arrive au pire moment, notamment avec la crise sanitaire liée au Covid qui se poursuit. Le médecin urgentiste Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, revient notamment sur les difficultés liées à cette canicule pour les personnes sans abri. Le docteur Christophe Prudhomme.
Les difficultés, elles sont pour les personnes qui n'ont pas de toit, elles sont pour les personnes qui prennent des médicaments, en particulier des médicaments contre l'hypertension, pour l'insuffisance cardiaque. Il est clair qu'il faut, pour tout le monde, trouver des lieux de repos à l'ombre et limiter son activité physique. Donc ça vaut aussi bien pour les personnes qui sont sans toit que pour tout un chacun. Voilà, donc il est clair que ce qu'il faut préconiser pour les personnes sans toit, c'est que dans ces périodes, si possible, limiter très fortement la consommation d'alcool ou d'autres substances toxiques, parce que la prise d'alcool ou d'autres produits addictifs peuvent aggraver les effets de la chaleur.
Et il faut des mises en garde de la part de l'État.
Ah ben écoutez, oui, il faut que les messages de santé publique soient adaptés. On a toujours les mêmes messages qui ont été bien intégrés depuis 2003. Depuis 2003, il faudrait qu'on adapte les messages. Les gens ont bien compris qu'il fallait rester dans des lieux frais, ne pas faire d'efforts, bien s'hydrater. Maintenant, il faut se préoccuper des personnes à risque, qui sont les personnes qui sont effectivement sans abri à l'extérieur. Les personnes, je vous dis, ce qui manque beaucoup aujourd'hui, c'est l'information sur le fait que chaleur et médicaments font très mauvais ménage, en particulier les médicaments à viser contre la tension, pour l'insuffisance cardiaque, les médicaments aussi à visée psychiatrique font très mauvais ménage avec la chaleur. Et malheureusement, les médecins ne donnent pas assez de conseils parce qu'il faut très souvent diminuer les doses pour éviter des chutes de tension qui peuvent provoquer des malaises avec des conséquences. Hein, vous comprenez bien, une chute de tension avec un malaise, ça peut provoquer une chute, ce qu'on appelle une chute mécanique, et une fracture du col du fémur pour une personne âgée. Voilà, donc il faut qu'on adapte les conseils. Et puis surtout, il faut qu'on soit clair. C'est-à-dire que ces périodes de feu de chaleur vont se multiplier, donc il faut qu'on change de mode de vie. Il est clair que aux périodes les plus chaudes de la journée, il ne faut rien faire, si possible. Il faut rester à l'ombre, il faut se reposer, et les activités doivent être concentrées le matin et en fin de journée. Il faut porter des vêtements amples et chauds, et non pas des shorts et la tête nue. Il faut avoir un couvre-cheveux, c'est si possible plutôt un chapeau, une casquette, pour qu'il y ait vous voyez, un peu d'air entre le crâne et le tissu, ce qui permet effectivement d'assurer une meilleure protection. Un mode de vie qu'il va falloir changer, c'est-à-dire qu'à Paris, il va falloir vivre comme en Europe du Sud ou en Afrique du Nord. Voilà, donc c'est un changement complet de mode de vie qu'il va falloir instituer pendant les périodes d'été, puisque toutes les périodes d'été, on aura des vagues de fortes chaleurs qui vont être de plus en plus longues.
Vous êtes médecin urgentiste, vous êtes inquiet aujourd'hui en cette période caniculaire, mais aussi en cette période de crise sanitaire qui se poursuit en France.
Bah écoutez, oui, tout ça provoque une surcharge de travail. Or, nous sommes déjà en situation de rupture à l'hôpital, donc toute augmentation d'activité, même minime, nous met dans le rouge. Voilà, c'est clair. Là, on a à la fois des patients Covid et des patients qui souffrent de la forte chaleur, et le système est sous tension et ça craque de partout. Ça craque de partout, ça craque dans les services d'urgence, ça craque dans les maternités. On n'a pas assez de lits, le personnel est épuisé. Et puis surtout, du fait de l'absence de prise en compte de cette réalité, du déni de la part du gouvernement et du ministre de la Santé, eh bien, on a des démissions en masse et on est déjà en nombre insuffisant, et on a des gens qui démissionnent régulièrement et de moins en moins de personnes à l'embauche. Voilà, c'est le phénomène qu'on appelle de grande démission qui touche tous les services publics et en particulier les services publics de santé. Voilà, parce que on considère qu'on est on n'est pas écouté. Hein. En 2019, on demandait trois mesures quand on était dans la rue. un bon plan de formation et d'embauche, nous n'avons rien eu. Des augmentations de salaire et non pas des primes, on a des primes et c'est du travailler plus pour gagner plus avec les heures sup, c'est pas ce qu'on demande, c'est des vraies augmentations de salaire. Et l'arrêt des suppressions de lits et des fermetures d'établissements, or le gouvernement actuellement accélère les opérations de restructuration avec des fermetures d'hôpitaux, comme c'est le cas à Paris avec la fermeture des hôpitaux Bichat et Beaujon qui est programmée pour construire un hôpital à Saint-Ouen où on va supprimer 300 lits, il y avait deux maternités, il n'y en aura plus qu'une. Enfin voilà, donc tout ça crée une ambiance qui est très défavorable, à la fois une colère, et puis je vous dis, la démission. Aujourd'hui, on a des démissions, et à la rentrée, on aura encore plus de démissions, et je pense que l'hiver prochain sera encore plus difficile que cet été.
Et en attendant l'hiver prochain, vous avez le sentiment de vivre un été à haut risque aujourd'hui ?
Oui, c'est un été à haut risque. On est dans une situation de crise grave, avec un ministre de la Santé qui applique des mesures qui sont largement contestées sur le terrain. Voilà. Donc, nous demander au SAMU de prendre des appels et de conseiller aux gens de prendre un rendez-vous sur Doctolib ou de leur donner un rendez-vous sur Doctolib, vous imaginez bien que ça nous met plutôt en colère. Hein, voilà. Les services d'urgence pour lesquels il faut un sauf-conduit en appelant 15. Les centres 15 aujourd'hui sont débordés. Donc demandez aux gens d'appeler le 15. Si c'est pour que l'appel pour l'arrêt cardiaque soit perdu au milieu des dizaines d'appels pour de la pathologie courante, si vous décrochez au bout de 10 minutes pour un arrêt cardiaque, écoutez, c'est même pas la peine de se déplacer. Hein. On vient avec le certificat de décès.
Le docteur Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. En visite en Algérie, le Premier ministre italien a scellé hier l'augmentation de la fourniture de gaz algérien à l'Italie. Mario Draghi a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune, avec qui il a coprésidé le 4e sommet algéro-italien. Les deux dirigeants ont signé 15 mémorandums d'entente et accords concernant la fourniture de gaz algérien à Rome. Mais les accords concernent aussi la justice, les micro-entreprises, le développement durable ou encore la coopération industrielle. Un soldat tunisien a été tué hier dans un affrontement avec des contrebandiers. Ces personnes cherchaient à convoyer des voitures depuis la Libye vers l'Algérie. Une patrouille militaire chargée de la surveillance des frontières a intercepté un cortège de 6 véhicules de contrebande qui tentaient de s'infiltrer en Tunisie. Et face à la patrouille sécuritaire, des contrebandiers ont ouvert le feu, déclenchant un échange de tirs entre les deux parties. Un sommet entre la Russie, la Turquie et l'Iran aujourd'hui. Cela se déroule à Téhéran. Le président russe Vladimir Poutine tient des discussions avec ses homologues iraniens et turcs autour de la Syrie, un conflit dans lequel la Russie est impliquée. Et à la veille de ce sommet, le président turc Recep Tayyip Erdogan a de nouveau menacé hier de geler l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. L'examen du projet de loi pouvoir d'achat pour aider à faire face à l'inflation a commencé hier à l'Assemblée nationale. Parmi les mesures proposées par le gouvernement, la hausse des retraites et des minima sociaux, composée de 20 articles, ce texte doit notamment permettre de limiter la hausse des loyers, de verser une aide alimentaire de rentrée, de créer une indemnité carburant conditionnée ou encore de maintenir le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie. Le Maroc qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Les Lions de l'Atlas ont battu le Nigeria 5 tirs au but à 4 après un score de 1 partout. Les Marocaines sont ainsi venues à bout des triples championnes d'Afrique en titre en demi-finale de la CAN 2022. Le Maroc qui disputera samedi prochain à Rabat la première finale de Coupe d'Afrique des Nations féminines de football de son histoire. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash, 17h30 pour votre journal, à 13h30 le journal du Liban, le journal de Beyrouth. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est précisément midi 19h.